Polyplaisir des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Polyphile du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour. Monsieur Bob, tu es très actif sur le forum.
Absolument.
Bah écoute, merci de m'accueillir chez toi. Et donc, je pense que tu es dans le réseau polyamoureux depuis quelques temps. Et donc, ça m'intéressait de te rencontrer parce que j'ai l'impression que tu as quand même un regard assez personnel et enrichissant sur peut-être cette notion des amours pluriels qui est un peu à la mode. Mais bon, tu n'as plus 15 ans non plus. Et donc, peut-être que toi, tu as aussi ce regard déjà qu'il y a quelques années sur la façon de vivre des amours pluriels.
Mais ça fait, je sais pas, 2-3 ans que j'ai commencé avec mon épouse à réfléchir au polyamour. Donc ça doit faire 2 ans que nous sommes pratiquants, si j'ose dire. Mmh. Et avant ça, 1 an de réflexion. Et c'est quelque chose que nous avons démarré à deux. Mmh. Je dirais qu'on nous avons plusieurs enfants. Et c'est une fois sorti des couches-culottes du dernier qu'on a eu envie de redonner un peu de fraîcheur à notre couple, de s'ouvrir. Enfin, on n'avait plus la tête complètement sous l'eau et on avait envie d'autre chose. Mmh. Et je pense, enfin, je suis même sûr qu'il ne s'agissait pas d'une lassitude dans le couple. Mais, enfin, ou alors peut-être qu'on anticipait une possible lassitude inconsciemment, enfin j'en sais rien. Mais donc au moment où on a eu envie de s'ouvrir à autre chose, je dirais que c'était pas une crise dans le couple, ça allait bien. Mais simplement tous les deux on se disait, tiens, on a envie d'autre chose, d'essayer, d'explorer. Et enfin, tous les deux, on a un certain degré, je dirais, d'ambition par rapport à notre couple, à notre amour. Et je dirais, on ne se contente pas de pas grand-chose. On a envie que ça soit d'absolu, que ça soit fort, que ça soit beau. Et donc, on se disait, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, ce qu'on a maintenant est chouette, mais on a encore envie de plus. On a encore envie d'atteindre d'autres dimensions, d'explorer d'autres choses, des territoires inconnus. Et donc les hasards des explorations nous ont amenés au polyamour via une connaissance qui elle était déjà active là-dedans et nous a prêté un bouquin, Paul Salomon, François Saint-Père, etc., les classiques. Et donc on a lu ça et au début on s'est dit ouais, ça nous parle quand même bien ça. Philosophiquement ou intellectuellement, c'est vraiment tentant, c'est chouette, c'est une belle ouverture, une belle façon de concevoir l'amour, j'irais ouvert et pas fermé. Mais donc au début, on s'est dit, c'est chouette, mais, enfin sur papier, c'est chouette, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas une utopie casse-gueule? Et donc on a mis, je dirais, 1 an à la mettre en pratique, en parlant beaucoup à deux, un petit peu à l'extérieur, aux rares personnes auxquelles on pouvait en parler. Mm-hmm. Et donc vraiment petit pas par petit pas, parce qu'on a une famille, on a un chouette couple, mm-hmm. on ne voulait pas mettre ça en péril de façon idiote et irréfléchie. Et donc on s'est dit, on ne va pas faire de conneries. Allons-y. C'est pas question d'être frileux, mais c'est question de ne pas prendre de risques inutiles avec quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on a énormément communiqué, dialogué, échangé entre nous. Et puis, à un moment, on s'est dit, oui, on est prêt. Et puis, je dirais, on n'a pas cherché l'occasion. Donc, on a attendu que finalement l'occasion se présente. Et puis, on a franchi le pas, chacun, je dirais, de son côté, donc pas en même temps, donc c'était un peu en décalé. Et finalement, on est entré dans la pratique du polyamour. Au début, en se mettant 10 000 garde-fous, et on y allait très progressivement. Et puis, à chaque fois, on enlevait un garde-fou, on le déplaçait un peu, etc., pour se rendre compte que finalement, ben, ça fonctionnait. C'était quelque chose de possible pour nous. Et donc, progressivement, on a étendu ça et on s'est rendu compte que c'était quelque chose de magnifique. Même si c'est pas forcément toujours. Enfin, je dis toujours que c'est pas du tout plus facile au quotidien qu'une vie de couple monogame. Donc, si on cherche la facilité, c'est pas là-dedans qu'il faut se précipiter. Donc, il y a d'autres difficultés qu'on a rencontrées, qu'on peut encore rencontrer maintenant. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, à titre personnel, m'épanouit vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, on s'est mis à. Alors, je reviens au début de ta question, à fréquenter les cafés polis qui se déroulent à la Mac. Et je me rappelle de mon tout, tout premier café, donc j'y allais avec mon épouse et à ce moment-là aussi avec une autre personne avec qui j'étais en relation à ce moment-là, donc j'y allais pas tout perdu, j'étais bien entouré. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont plu, évidemment je connais par ça, je connaissais personne, des gens qui semblaient chaleureux, ouverts, différents, enfin qui tout de suite ça a bien accroché. Bon, forcément il y a des gens qui s'accrochent plus que d'autres, mais j'ai bien aimé tout de suite l'ambiance de gens qui ne se jugeaient pas. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que globalement, c'est aussi des gens qui n'étaient pas dans une sorte de certitude. La plupart des gens avaient plus de questions que de réponses. Enfin, ce n'étaient pas des gens perdus, mais c'était des gens qui n'étaient pas avec oui, vraiment des certitudes, qui sûrs dans leur bon droit, que tous ces imbéciles monogames qui auraient compris, nous on a trouvé la solution. C'était des gens qui avaient globalement l'humilité de dire, voilà. On expérimente un truc, on verra ce que ça donne. On a l'impression enfin, on a le sentiment d'être sur quelque chose de juste, mais on ne peut pas vous garantir que dans 6 mois ou dans un an, on sera toujours là. Mais donc, c'est des gens qui ont oui, l'humilité de dire, ben voilà, on explore un truc qui n'est pas, je dirais, jalonné. Donc on sait qu'on va peut-être se planter, qu'il y aura des essais-erreurs, mais pour l'instant, ça nous plaît, le chemin est intéressant, même si pas forcément facile. Et donc on avance là-dedans. Et donc ça, j'ai bien aimé cette philosophie de gens qui sont pas là à asséner leur vérité, etc., mais qui disent, ben voilà, nous, on tente un truc, si vous voulez nous rejoindre, c'est chouette. Mais on n'est pas là avec des recettes toutes faites qu'on vous assène. Et donc ça m'a bien plu comme idée. Peut-être que mon épouse et moi sommes un peu des vieux romantiques, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous avons tous les deux une vision de l'amour et du couple, enfin, en tout cas, on ne veut pas médiocre.
C'est ça.
On a envie que ça soit quelque chose, oui, qui nous transporte. Et donc, on ne peut pas se contenter de pas grand-chose. Et c'est pareil dans les autres relations que je peux avoir. Si ça ne décolle pas, si ça reste très, très terre à terre, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai la chance d'avoir une épouse fantastique. C'est pas après pour aller côtoyer des gens qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est gai, justement. Dans le milieu polyamoureux, on rencontre beaucoup de gens qui sont passionnants, qui sont intéressants. Et donc ça, c'est une merveille justement d'avoir cette possibilité de côtoyer des gens qui sont parfois d'horizons très différents de soi et de se rendre compte qu'on a des points communs et puis des tas d'autres différences, mais qui sont des richesses parce que, enfin, pour moi, c'est un des attraits principaux du polyamour, c'est que on rencontre de façon relativement intime d'autres personnes qui arrivent avec leur univers, leur monde, leur richesse, et peuvent, on peut s'apporter des tas de choses avec un degré de profondeur qu'on n'aurait pas dans des relations plus conventionnelles, parce qu'on ne s'ouvre pas de la même façon, il n'y a pas le même degré de confiance et d'empathie. Et tandis qu'ici, en finalement très peu de temps, on arrive à échanger des choses magnifiques et profondes. Et donc, c'est pour moi une richesse, c'est formateur. Enfin, depuis que j'ai la chance d'être dans cet univers, j'ai rencontré des gens fantastiques et qui m'ont fait évoluer, qui m'ont appris des tas de choses. Enfin, j'ai l'impression qu'en 2, 3 ans, je suis plus du tout la même personne. J'ai appris, j'ai progressé grâce à ces gens.
Et donc, sans révéler quelque chose de... Enfin, c'est quand même un petit scoop, mais Monsieur Bob, tu es très actif sur le forum, hein. Et donc, ça me touche parce que je sais que tu t'es venu dans un premier temps et que j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de qualité dans ce que tu apportais. Et puis, je me souviens, un petit creux. Puis, tu es revenu assez actif et je trouve que tu as cette envie comme ça de bien accueillir aussi. Et ça, c'est important. Et je te sens très sensible quand une première personne arrive sur le forum, raconte un petit peu ce qui s'est passé. Parce que souvent, ce sont des histoires où assez vite, les gens se confient et on sent quand même aussi parfois des blessures, des questions. Et je trouve que tu as aussi les mots, quoi. Et donc, la question, c'est ça, est-ce que tu as l'impression donc que tu te sens proche des gens qui osent un peu faire ce pas? Qu'est-ce que tu as comme retour? Parce que je pense que beaucoup de gens te répondent aussi.
C'est vrai que pour l'instant, je suis assez actif sur le forum, mais bon, il y a des phases, hein, c'est variable. Et je dirais, j'ai eu une époque qui était, enfin une phase qui était un peu plus difficile, et j'ai eu pas mal de soutien et de retours de gens du forum, et donc ça m'a touché. Et je trouvais normal de faire pareil. Et quand des nouveaux arrivants viennent et ont le courage ou l'honnêteté de se mettre à nu, avec pudeur, mais quand même, c'est une démarche qui n'est quand même pas
Bien
simple,
sûr, bien
parce
sûr.
qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Et donc, j'ai un sentiment qu'il y a beaucoup de sincérité. Et donc, si ces gens se livrent et puis qu'ils n'ont aucun écho, que personne ne réagit, ça doit être horrible. Et je trouve que c'est normal, même si c'est 3 mots, hein, mais
Bien sûr.
d'accueillir ces gens, de leur dire simplement bienvenue. Si je n'ai pas, si je ne, je ne vois, je n'ai pas de message particulier, je vais pas répondre quelque chose pour le plaisir de remplir. Mais ne fût-ce que 2 mots, bienvenue, au plaisir de te voir, rien que ça, je pense, peut être apprécié. Et si, ben, je dirais de ma mini-expérience, j'ai l'impression qu'il y a un petit mot qui peut être utile ou apporter quelque chose, ben là je le dis. Mais c'est vraiment, c'est au cas par cas. Il y a des fois où je dirais, c'est pas dire que ça ne m'inspire pas, mais je vois pas quoi répondre. Je n'ai pas les mots, enfin, je n'ai pas l'expérience, ou ça ne résonne pas en moi. Et donc, plutôt que de dire une platitude, je préfère ne rien dire, ou juste un tout petit mot d'encouragement, mais pas plus, parce que c'est pas utile d'être à côté de la plaque, et généralement d'autres prennent le relais et le font bien. Donc, je ne me sens pas indispensable, et d'être omniprésent sur le forum pour le plaisir, ça n'apporte rien.
Alors pour revenir un petit peu à ton expérience de base avec la personne avec qui tu as des enfants, et tu as peut-être fondé beaucoup de choses avec elle. Donc tu avais parlé tantôt d'un bilan, d'un moment de constat, en tout cas de dire tiens, tentons, hein, en dehors des allons vers les sentiers battus, et ou c'est en dehors des
En
sentiers, en
dehors.
dehors, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire un petit bilan? Parce que donc tu disais c'était il y a 2-3 ans, je crois que tu avais commencé un peu à le faire, mais revenir peut-être un petit peu sur... Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions entre vous aussi, et est-ce qu'il y a cette progression que tu espérais, par exemple? Progression vers un mieux-être, vers quelque chose qui ouvre l'esprit, quoi.
Bon, je dirais, je ne sais, enfin, c'est difficile de dire est-ce que notre situation de couple est mieux maintenant qu'il y a 4 ans. Enfin, ça, je ne le vois pas en ces termes-là. Mais Nous avons eu, enfin, je ne sais pas si c'est une chance ou si on l'a provoqué, cette chance, donc d'évoluer en parallèle. Donc, enfin, même si, bon, on ne peut pas dire que nos évolutions sont exactement les mêmes, mais elles restent suffisamment proches et compatibles pour que on puisse considérer que notre couple est toujours là et est une richesse et a un réel sens pour nous. Et donc, c'est le fait, je crois, bon, d'avoir beaucoup discuté, beaucoup dialogué, d'avoir osé lever les tabous entre nous, qui sont pas toujours évidents, hein, parce que c'est d'oser dire, ben voilà, tiens, j'ai envie de. On a une sorte de contrat tacite d'engagement entre nous. Eh bien, il y a des choses que je souhaite remettre en cause, qui ne me conviennent plus,
Oui,
ou
c'est
des
ça.
équilibres qui sont, enfin, qui doivent évoluer, ou telle personne m'intéresse, ou enfin des tas de choses qui ne sont pas a priori faciles, et d'oser les aborder. En ayant, je dirais, la maturité affective de ne pas se sentir agressé, de ne pas prendre pour soi comme une sorte de critique implicite ou indirecte parce que on veut faire bouger des choses. Et donc, on a eu cette chance de pouvoir évoluer et de faire une progression commune qui fait qu'il n'y en a pas un qui est resté, je dirais, sur le point de départ. Et l'autre qui a évolué pour se rendre compte un moment ben, que nos visions étaient devenues incompatibles. Et donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de fantastique de me rendre compte ben, que mon épouse et moi, on parle toujours la même langue, on se comprend. Et même si par rapport à il y a 3 ans, il y a eu un monde d'évolution rétrospectivement, enfin, je me rends compte qu'il est vraiment important. Et que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde. Il y a toujours cet amour, cette tendresse, ce partage qui fait que même des sujets qui seraient éminemment sensibles ou délicats pour d'autres couples, on sait en parler avec une facilité qui parfois m'impressionne moi-même. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc j'ai vraiment le sentiment que en 3 ans, l'un comme l'autre, on a beaucoup changé et vers un mieux, je crois, vers une progression. Et c'est, enfin, pour ma part, mais pour mon épouse aussi, c'est lié donc au polyamour. Mais enfin, le hasard a fait que ça a été plus ou moins concomitant avec la découverte du tantra.
Oui, c'est ça.
Et c'est un peu un hasard, enfin, ou je ne sais pas si c'est un hasard, que les deux ont débarqué dans notre vie en même temps, mais c'est la conjonction des deux qui, à mon avis, a fait cette évolution. Et donc le tantra, qui est donc un... C'est pas, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une philosophie, mais je dirais que c'est une école de développement personnel qui est cousine du bouddhisme. Et que pour ma part, j'ai trouvé incroyablement, non seulement compatible, mais complémentaire avec le polyamour, parce que tous les deux étaient, enfin moi je le conçois comme une voie de développement personnel, une façon de mieux se connaître, de mieux s'aimer aussi, et d'évoluer vers une meilleure acceptation de soi et de réussir à concilier les différents pôles de la personnalité. Donc, enfin, en gros, je schématise, il y a la tête, donc le cérébral, l'ego, puis il y a le cœur, ou donc les sentiments, et puis il y a le ventre, enfin, c'est les émotions, donc tout ce qui est plus brut. Et c'est pas facile d'avoir les trois qui sont en accord. Généralement, il y en a toujours bien un qui est en désaccord avec les autres. Et j'ai l'impression que le secret de la paix intérieure, du bonheur, enfin on l'appelle comme on veut, c'est d'arriver à ce que les trois soient unis, soient à l'unisson. Et ça, le tantra, enfin, c'est le but ultime du tantra. Et je quelque part, c'est le but aussi dans le polyamour, où si on n'y arrive pas à trouver une certaine unité entre ces trois pôles, ben, le polyamour devient quelque chose de vachement compliqué et de difficile à vivre. Et donc, ça permet d'arriver à trouver une sorte d'équilibre entre ces trois pôles. Mmh. Et donc le polyamour, en fait, c'est particulier en ce sens que d'un côté, le polyamour exige d'arriver à un certain degré d'union entre ces trois pôles, sinon c'est simplement horrible à vivre. Mais en même temps, le fait de pratiquer le polyamour est un apprentissage un peu paracommando, je dirais, parce qu'on se prend des baffes, parce que c'est pas tous les jours facile, mm-hmm. mais cet apprentissage permet justement, en étant en condition, je dirais, réelle, d'apprendre à dominer ses émotions, à réfléchir, à prendre du recul par rapport à ses sentiments de jalousie, ouais, de peur de l'abandon, mm-hmm. d'ego, d'orgueil, etc. Donc ça oblige à remettre un peu tout ça à plat, avec des crises et des choses pas nécessairement faciles, mais ça oblige à remettre ça sur le tapis et à reconsidérer un peu toute sa façon de voir. Ça permet de se remettre soi-même en question en disant « Tiens, mais jusqu'ici, je considérais que les choses allaient comme ça. D'autres me montrent que en fait, pas du tout, que ça peut fonctionner aussi bien autrement. » Forcément, tout ça touche aussi à la sexualité. Et donc, c'est donc des choses forcément très intimes qui sont mises à jour. Et donc, ça oblige à des remises en question quasi permanentes. Mm-hmm. Et donc, une façon pas nécessairement simple, mais c'est en tout cas une façon très efficace de progresser, d'évoluer. Et donc, c'est ça ensemble qui, en tout cas, moi, m'a permis de réaliser qu'en 3 ans, j'avais vraiment beaucoup progressé, mais toujours avec le sentiment d'être nulle part. Donc, que je suis loin d'avoir atteint un quelconque objectif ou sommet. Et par rapport à d'autres que je vois, l'humilité de considérer qu'il y a encore une marge de progression énorme, bah quelque part, je trouve pas ça décourageant ni déprimant. Mm-hmm. C'est quelque part, moi je le vois plutôt comme quelque chose de chouette, en disant parce que si j'avais atteint le sommet, mais bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, on s'emmerde. Non, là au contraire, je suis plutôt enthousiaste en me disant je suis content de ce que j'ai déjà fait, mais waouh, j'ai encore des tas de choses magnifiques à découvrir. Et par rapport à moi-même, je peux encore, j'irai m'améliorer, parce que si j'avais atteint mon sommet, quelque part, ce serait horrible. Parce que je me dirais, bon, mon sommet, c'est que ça, c'est pas mal, mais bof, quoi. Tandis qu'ici, je me dis, waouh, je peux encore faire mieux que ça, enfin peut-être, j'espère. Et donc, c'est l'idée de se dire que j'ai encore une marge de progression pour être en mieux avec moi-même, mieux par rapport aux autres, offrir plus de choses, en recevoir plus, découvrir encore des tas de choses, des tas d'univers, mm-hmm. et ça, je trouve ça chouette. Et qu'il y a encore une infinie de beauté à découvrir, c'est magnifique.
Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en t'écoutant, je me dis, mais donc, tu confirmerais que arriver à être polyamoureux, c'est vraiment aimer l'autre pour l'autre, en ayant réglé pour soi-même une série de questions qui touchent à l'abandon, à l'autonomie affective.
Mais oui, ça peut paraître présomptueux ou élitiste ce que je vais dire. Et bon, je l'assume, je ne sais pas si je l'assume, mais en tout cas je le lis. Mais que j'ai l'impression que pour vivre bien, de façon harmonieuse, le polyamour, ça demande vraiment beaucoup de qualité. Mm-hmm. Et que tout le monde, à ce stade-ci, ne me semble pas prêt à franchir le pas. Et dire que le polyamour sera demain, je dirais, le mode de couple principal, supplantera le couple monogame, etc. A priori, je n'y crois pas, malheureusement, pas tellement, en ce sens où j'ai l'impression que ça demande un tel degré de maturité, de connaissance de soi, que ça reste malheureusement réservé à peu de gens. Mmh. qui sont prêts à franchir ce pas, à se mettre en danger,
Oui, c'est ça.
à oser se confronter à eux-mêmes. Donc, c'est prendre un risque, parce que c'est prendre le risque de vraiment de se mettre à nu et de remettre à plat toute son éducation, tous ses tabous, ses croyances religieuses, philosophiques, sexuelles. Et ça ne va pas sans difficulté. Et donc, même s'il y a un bonheur à la clé, c'est, j'ai l'impression, une démarche qui n'est pas évidente. Et bon, certains vont faire du polyamour, vont surfer sur le polyamour, mais pour le faire de façon durable, que c'est pas tout de tenter le truc et puis de foutre son couple en l'air 3 mois après. Et ça j'irais, tout le monde peut le faire. Mais faire quelque chose qui tient la route et qui se fasse dans le respect des autres, dans le respect de soi-même, et qui est vraiment de l'amour derrière et devant, par ailleurs, c'est pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pas simple. Et donc, ça demande des qualités. Bon, je dis pas que je. Enfin, je dis pas que moi, je les ai. Enfin, pour moi, le polyamour, je le vois un peu comme un idéal à atteindre, et on est sur le chemin. Et donc, certains sont plus avancés que d'autres sur le chemin, mais de ce que j'ai pu voir, personne, dans mes connaissances en tout cas, n'a vraiment atteint, je dirais, tous les paramètres qui me semblent nécessaires pour être le polyamoureux parfait absolu. Donc, on a tous encore des petits restes de jalousie, de manque d'amour, d'altruisme. On a tous nos petites faiblesses, nos petites contradictions. Et donc, on est chacun à une étape du chemin, et chacun progresse à son stade, à son rythme, et avec une marge de progression qui reste importante pour les uns et les autres. Et donc, on avance. Et je dirais qu'il n'y a pas de compétition. Chacun a son rythme, chacun avec ses capacités, et surtout chacun entraînant le bagage qu'il a avec lui, qui est souvent contre lequel il doit se battre, c'est-à-dire son éducation, etc. Énormément d'idées préconçues, de choses qu'il faut déconstruire. Par rapport donc à la jalousie, l'esprit de possession, ce genre de choses. Et donc j'ai l'impression que c'est d'abord un travail de remise à plat, et ça, il faut oser le faire, parce que c'est quelque part démonter tous les repères, toutes les certitudes. Et puis, quand tout est à plat, quand on a démoli finalement toute son armure, toutes ses protections, donc oser prendre ce risque de se retrouver tout nu, eh ben de reconstruire quelque chose dont on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner. Et donc, faut oser faire ça, et puis d'aller un peu finalement dans le brouillard à l'aveuglette, en se disant, j'ai l'impression que là c'est une direction qui est pas mal, mais sans trop savoir où ça va donner. Donc, c'est un côté exaltant, mais c'est aussi un côté qui n'est pas simple, parce que y a aucune garantie. Et bon, maintenant, même si on peut dire que le couple monogame a montré ses limites et qu'il n'y a pas plus de garantie non plus dans ce modèle-là, ça n'empêche que on a un peu le sentiment d'être des explorateurs ou des pionniers, ou ce qu'on veut, mais donc d'essayer quelque chose dont personne ne peut assurer que ça va fonctionner vraiment bien non plus, mais c'est une voie en tout cas qui mérite d'être tentée. Et je suis impressionné par le nombre de personnes qui tentent cette voie, et qui sont des gens, enfin, pour beaucoup, c'est des gens qui ont déjà pas mal réfléchi et qui ont des parcours intéressants, qui ont des choses à dire, qui ont une richesse. La plupart des gens que je croise sont impressionnantes. Et dernièrement, j'étais aussi impressionné par des nouvelles, c'est plutôt des nouvelles venues sur le forum, au café, par le degré de maturité de gens assez jeunes, ou très honnêtement, au même âge, moi j'étais nulle part par rapport à ça, et qui ont déjà un degré de réflexion, de maturité, de lucidité. Et je me dis, waouh, c'est chouette que des gens sont déjà à ce niveau-là, où moi, il m'a fallu 10 ans, 15 ans de plus pour y arriver. Et donc, c'est gai de voir qu'il y a d'autres personnes. Il n'y a pas de jalousie, parce que je suis plutôt ravi pour eux. C'est gai de voir qu'il y a d'autres personnes qui, elles, ont eu la chance, l'intelligence, ou ce qu'on veut, de prendre le train de la réflexion plus tôt, et qui donc, on peut espérer, auront une vie affective, sentimentale, plus épanouie, parce qu'elles commettront pas des erreurs que d'autres ont commises, et sont déjà prêtes à franchir un pas de réflexion plus rapide.
Tu me disais dans ton couple il y a 2-3 ans qu'il y avait certaines limites qui étaient des garanties pour peut-être s'engager dans quelque chose qui avait l'air assez risqué. Est-ce que au fil du temps, pour toi, il y a une logique de tenter de reculer ces limites? Et donc, est-ce qu'il y a peut-être, si ces limites reculent, est-ce qu'il y a un effet vertigineux à prévoir ou à sentir ou quelque chose qui pourrait faire un peu de l'ordre de l'abîme ou de quelque chose qui est sans fond?
L'idée n'est pas de mettre des limites pour le plaisir, ni d'en mettre aucune par principe non plus. Donc, je dirais, les limites que nous nous sommes mises, ben, c'est avant tout le respect. Le respect de l'autre, le respect de ce que nous avons construit, c'est-à-dire une famille, un couple, des enfants. Et donc, la préoccupation principale reste de ne pas mettre ça en danger. Et donc, si nous avons la possibilité de nous épanouir en dehors, nous essayons en tout cas de rester attentifs à ce que ça reste compatible avec le couple, avec la famille. Donc, ça soit c'est pas tel uniquement en termes de temps, mais en termes, je dirais aussi, d'investissement affectif, émotionnel, de conserver l'enthousiasme et l'énergie dans le couple, et de même que je souhaite le conserver dans les autres relations. Donc, l'idée n'est pas un vase communicant où on prend tout de l'un pour mettre dans l'autre. Donc, c'est plutôt exponentiel, c'est-à-dire que une autre relation va nourrir la première, les deux vont s'enrichir, mais parfois il peut se créer un déséquilibre, où quand une relation est nouvelle, il y a forcément l'excitation de la nouveauté, de ce genre de choses, qui fait que elle peut prendre un pas important. Et donc, il faut juste veiller à trouver un équilibre qui n'est pas l'une qui donc prend un pas excessif sur l'autre. Et ça, c'est un peu un jeu de tous les instants, de parvenir à ce qui est donc cet équilibre entre les différentes personnes, les différents pôles. Et donc, c'est forcément quelque chose qui est changeant et variable suivant les moments. Et c'est une question de sensibilité que je n'ai pas toujours. Et donc, il y a des fois où c'est plus heureux que d'autres. Mais donc, on fait son possible et on continue à apprendre par rapport à ça. Mais donc, pour moi, c'est la limite. Je ne parlerai pas comme une limite, mais plutôt comme quelque chose auquel il faut rester attentif. C'est surtout ça. Donc d'être attentif à ce que y ait un respect entre les différents équilibres. C'est ça qui est important.
La société occidentale ne fait que proposer des valeurs marchandes et assez individualistes. Est-ce que le polyamour serait peut-être un petit sparadrap là-dessus ou une petite garantie d'une espèce de perméabilité entre des richesses, pas d'ordre matériel, mais quoique ça peut aussi être le cas, mais de l'ordre du partage du bonheur à plusieurs, quoi.
Mais bon, je ne sais pas si il faut nécessairement lier ça à des générations plus jeunes, parce
Oui, c'est
que
ça.
je dis, on peut croiser des gens de tout âge au café Polyamour, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un mode, enfin, c'est un mode de pensée, un mode de vie, un mode de conception de la vie en couple sentimentale, amoureuse, qui a plus particulièrement un sens aujourd'hui, dans la mesure où on peut mettre ça en lien avec l'écologie. C'est une façon de concevoir la vie et les relations avec moins de possessivité, moins d'individualisme, moins de marchandisation, de mercantilisme, où c'est, je dirais, c'est différent de l'utopie 68 heures, où j'ai l'impression que c'est un degré plus affiné de la réflexion.
C'est ça.
Donc à l'époque
C'était les bases, quoi.
à l'époque
Les
hippie,
fondations.
c'était, oui, je dirais, c'était un premier jet qui a eu son mérite, etc. Mais qui portait en lui, je dirais, pas mal le germe de son échec. Et donc on a vu que ça n'a pas bien marché. Et donc il a fallu un temps de maturation. Il a fallu qu'on se frotte aussi à d'autres choses qui soient ben, le libéralisme, etc. Il y a eu la libération sexuelle, puis il y a eu un retour refuge à plus de valeurs. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un nouveau degré dans la réflexion qui, enfin, l'avenir dira s'il reste marginal ou s'il va plus se développer, qui est que il y a d'un côté le développement individuel, personnel, donc c'est pas se fondre dans des communautés, dans une espèce de masse. Donc le développement individuel garde, qui donc quelque part lui peut découler de l'individualisme, donc c'est pas incompatible. Donc il y a effectivement, on n'est pas des fourmis perdues dans une colonie. Donc, il y a une recherche individuelle du bonheur, mais qui, pour moi, passe par un amour universel et enfin, une ouverture. Donc, c'est pas l'individualisme enfin, purement consumériste où chacun recherche son petit bonheur à soi égoïste. Mais c'est un développement personnel, mais dont on a pris conscience qu'il ne peut passer que par les autres. Donc j'ai l'impression que c'est un petit degré supplémentaire dans la réflexion, qui est que seul on n'arrivera à rien, se perdre dans la masse n'apportera pas grand-chose non plus, mais donc il y a une troisième voie. Si je puis dire, qui est donc que on arrivera à quelque chose, mais grâce aux autres. Et donc, c'est de l'ordre de cet amour universel. C'est-à-dire, enfin, moi, je conçois le polyamour comme une sorte de bienveillance générale, a priori envers tout le monde. Et puis bon, on peut avoir des degrés d'affinité et d'intimité différents avec les uns, avec les autres, mais c'est a priori une ouverture. C'est-à-dire que on est ouvert à toutes les belles rencontres qui pourraient se proposer. Et donc, on ne ferme a priori pas de porte. Donc, il y a 10 000 potentialités qui sont là. On ne va pas les concrétiser toutes. Donc on ne va pas franchir toutes les portes. Donc il n'y a pas une espèce de boulimie qui fait qu'on va tout goûter, tout toucher, tout faire. Parce que sinon, on est dans quelque chose de frénétique qui devient presque pathologique. Et qui peut d'ailleurs être un des petits dangers au début du polyamour, qui est que waouh, tout est ouvert.
Un gros gâteau,
Voilà, il y a
c'est un
waouh, il y a plein de filles,
Ouais.
machin. Ça, effectivement, on peut se perdre dans la quantité, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Et donc, il faut effectivement se dire, il y a toutes les portes qui sont là, mais je choisis quand même celle qui me semble juste pour moi, et donc pas les franchir toutes, mais l'idée aussi de dire, elles sont là, ces portes. Donc c'est aussi ce sentiment de liberté, de se dire, j'ai cette possibilité, je n'ai pas nécessairement le besoin ou l'envie d'exercer cette liberté, mais le fait de savoir qu'elle est là, c'est déjà quelque chose de gratifiant, d'agréable. Et donc, après ça, ben, je vois qu'est-ce qui résonne juste pour moi. Donc, de ne pas franchir n'importe quoi, mais de se dire, voilà, ça, c'est quelque chose qui pour moi, est bon. J'ai l'impression, en faisant ça, d'être en cohérence avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce qui me semble juste. Et donc, là j'essaye, bon, ce qui n'exclut pas nécessairement les erreurs et les égarements, mais on a quand même cette idée de se dire, voilà, j'ai l'impression que pour moi, c'est une voie que j'ai envie d'explorer, qui me paraît bien. Et donc, avec ça, ben de faire des rencontres, de voir des personnes. Et enfin, moi j'ai le sentiment, j'ai rencontré depuis 3 ans quelques personnes magnifiques qui m'ont appris énormément. Donc je peux citer 3-4 personnes qui vraiment m'ont ouvert à des réflexions, à leur univers, et envers qui je suis infiniment reconnaissant de m'avoir brusqué parfois, remis en cause. Et mais toujours, enfin, j'ai pris pas mal de baffes, mais donné avec amour et bienveillance, et qui était salutaire. J'ai vraiment appris. Avant ça, j'avais des petites certitudes, machin, qui ont été bousculées, qui ont été remises en cause. Et vraiment, j'ai un respect, un amour, une admiration pour ces personnes qui m'ont fait évoluer. Et j'espère avoir pu contribuer aussi à ma façon, à leur évolution à elles. Et donc, ça a permis de bouger. Et donc, pour revenir à ta question initiale, qui était donc les gens à qui on en parle, etc., ben c'est vraiment au cas par cas, où il y a des gens que je sens mûrs, et parfois des gens qui ne sont pas des amis, hein, des gens que je peux rencontrer par hasard, c'est dans le milieu professionnel, où je me dis, tiens, là, je sens qu'il y a une réceptivité possible. Et donc, si j'ai l'impression que je peux leur ouvrir un univers qui leur est inconnu, qu'il y a un terrain propice, là, je le fais. Mais c'est vraiment, je dois le sentir au cas par cas, parce que c'est quelque part m'ouvrir aussi. Et donc, c'est pas tous les jours. Et vraiment, parfois, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ça. Et d'autres, je peux dire ce que je veux, le message ne passera pas. Donc c'est comme je prête certains bouquins qui ne sont pas nécessairement strictement du polyamour, mais qui sont, je dirais, dans les sphères avoisinantes. Et il m'est arrivé de me tromper, faire une erreur de casting, et de prêter un bouquin où la personne est complètement passée à côté. Où elle l'a lu et a dit... oui, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est très bien, c'est du bon sens, mais bon, c'est quand même, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et tu te rends compte qu'en fait, il faut arriver à un certain, je dirais pas un degré de maturité, mais arriver à une sorte d'ouverture, être prêt à recevoir le message. Et si tu n'es pas prêt, tu peux lire 25 fois le bouquin, finalement, tu seras hermétique. À la limite, ça restera au niveau intellectuel, mais tu ne l'intégreras pas dans le corps, et ça restera en surface et ça n'apportera pas. Et donc là, il faut sentir quand les gens sont prêts à le recevoir ou pas, Et si on n'est pas au bon moment, ben, ça ne sert à rien, et voire ça peut être contre-productif. Donc ça, ce n'est pas simple de sentir si c'est le bon moment, la bonne personne.
Mais ça me donne envie de revenir au tantra, parce que justement, j'ai senti une petite émotion là, quand tu parlais, que tu avais envie de remercier des personnes que tu avais rencontrées. J'ai senti des petites lumières dans tes yeux, surtout l'œil gauche en fait. Non, mais c'est, on sent vraiment, et là je sens que c'est voilà, c'est l'humain, c'est la rencontre humaine hein, qui est au centre. Et j'ai l'impression que dans le tantra, ben, peut-être pour donner envie, parce que moi c'est un lien, j'avais aussi lu il y a une dizaine d'années un livre sur le tantra, j'avais déjà trouvé des débuts de réponse aussi. Par exemple, concrètement, est-ce qu'il y a eu certains exercices, j'allais dire, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, invitations tantriques comme ça, qui t'ont aidé à lâcher prise, qui t'ont aidé peut-être à recevoir plus tard une baffe dans la figure, comme tu disais avec bienveillance, parce qu'il y a quand même cette notion quand même de, je pense qu'il y a des angoisses primaires, hein, il y a des choses, la peur de l'abandon. Bon, est-ce que c'est des thèmes qui sont abordés dans le monde tantrique, et est-ce que tu peux nous donner 2-3 indices, parce que tu parlais de ça au début tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est à mon avis assez riche.
Oui, donc moi j'ai une vision du polyamour qui est une vision, je dirais, un peu spirituel. Et donc, j'ai vu que ce n'était pas le cas de tout le monde. Oui. Donc, j'ai l'impression que chacun a sa vision du polyamour et qu'il y a des conceptions très différentes, et ça fait aussi la richesse du mouvement. Mais donc, moi, je vois le polyamour dans un cadre plus large qui est le développement, mon développement personnel. Et donc, c'est une des facettes, une des façons dont je peux apprendre à me connaître et à me développer. Alors, je pars de l'idée qu'on a chacun des facettes multiples, et en soi, on a en latence, endormi, toutes les facettes. Donc on a finalement un spectre énorme de personnalités, et les hasards de la vie, de l'éducation, des personnes rencontrées font qu'il n'y a que quelques facettes qui sont développées. Certains ont leur côté sérieux qui est développé, responsable, d'autres leur côté fantaisiste, leur côté artiste, leur côté scientifique, leur côté littéraire, leur côté... Il y a plein de possibilités, mais donc... les hasards ont fait que nous n'avons que quelques facettes qui sont mises en avant, et toutes les autres qui dorment. Et le polyamour, par le fait qu'on a des rencontres intimes avec d'autres personnes, je trouve, permet justement d'ouvrir, de réveiller certaines de ces facettes. Par exemple... avec une personne, je lâche beaucoup plus ma fantaisie. Avec l'autre, je suis plus protecteur. Ou au contraire, avec une autre, je suis plus materné. Enfin, j'invente. Hein. Mais donc, je dis, il y a le fait qu'on ait plusieurs facettes qui soient réveillées et activées en même temps, fait que j'ai le sentiment d'être plus complet, de mieux me connaître. Et ça, c'est avec ça que je fais le lien par rapport au tantra. Donc, le tantra a comme objectif de se connaître soi-même, d'arriver à un degré de réalisation important, qui donc que je mets en lien avec le polyamour. Et donc, il y a différents, pour revenir à ce que tu disais, différents exercices. Et je prends l'exemple du massage. Donc le tantra, enfin, malheureusement beaucoup le résument au massage tantrique. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des composantes importantes malgré tout, parce que donc par rapport au bouddhisme, le tantra a comme particularité de considérer que le corps est une des voies d'accès importantes de l'âme. Et donc, c'est par la connaissance de son corps, entre autres via la sexualité, que l'on peut arriver donc à l'âme. Et la communion, l'extase sexuelle permet aussi d'arriver à un degré mystique. Et donc il faut arriver à transcender la sexualité pour arriver à un degré supérieur qui d'abord vous relie à une personne. Et puis, si on y arrive, dans un second temps, vous relie à l'univers entier.
C'est ça.
Et donc, ce que je trouve quand même très compatible avec le polyamour. Et donc, dans le massage, si on est la personne massée, pour arriver à une réceptivité à ce qu'on ressente vraiment tout son corps, ça demande un lâcher-prise, un abandon, et qui n'est a priori pas tellement l'apanage des hommes.
C'est ça.
Donc, les hommes sont plutôt dans l'actif, dans le faire,
Mmh.
et donc de s'ouvrir. Donc pour que ce massage soit apporte toute sa plénitude, toute sa réalisation, il faut vraiment s'abandonner. Donc il y a un degré de confiance important, se lâcher prise, donc mettre ses fragilités à nu, et ce qui a priori n'est pas facile pour la plupart des hommes. Et donc ça permet de développer donc cette réceptivité qui est plus chez l'homme en tout cas en lien avec sa part féminine, et donc d'arriver à développer cette part féminine, ce qui permet à l'homme d'être plus complet. Parce que donc si on reprend entre autres les livres de Paul Salomon, donc
Ouais.
qui parle pas mal de l'androgynie,
La femme solaire.
la femme solaire, voilà. Donc on a donc, elle parle de cette androgynie, qui donc d'arriver à ce que et l'homme et la femme pour être totalement complet et puisse arriver à un niveau supérieur d'union, doivent chacun développer, la femme développer sa
Ouais.
part masculine et l'homme sa part féminine, et donc de façon à aussi arriver à une plus grande autonomie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est commun au tantra et au polyamour, qui est que l'autonomie, principalement affective, est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si je suis moi-même suffisamment complet, que je n'ai pas des manques importants que je souhaite combler avec un partenaire, donc si j'arrive pas en disant, ben voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas, j'ai besoin de toi, soit ma
Ouais,
béquille,
c'est ça.
soit mon infirmière, tout ce qu'on veut, ma béquille. Et donc, finalement, la relation devient une relation d'assistanat, devient une relation quelque part malsaine, parce qu'il y a une dépendance. Ça, c'est pas bon. Donc, pour que la relation soit vraiment saine, il faut qu'on arrive à un degré qui soit d'autonomie, qui soit telle que finalement, je n'ai pas besoin de toi. Si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime, par envie, mais pas par besoin. Et donc, ça veut dire que si je reste avec toi, c'est un vrai choix. C'est pas par défaut de mieux, parce que j'ai pas trouvé une autre façon meilleure de combler mes besoins. Donc c'est vraiment, comme il n'y a pas de besoin, si je reste, c'est parce que j'en ai vraiment envie.
Et quand les années passent, parce que quand je t'écoute, là, je suis tout à fait relié à ce que tu dis et je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens, mais est-ce que malgré soi, dans un couple qui dure, est-ce que le besoin, ne serait pas quelque chose qui arrive malgré tout un petit peu à s'insinuer et que c'est peut-être le risque alors d'aller vers quelque chose qui s'use un peu, mais que dans le fond, c'est quand même très difficile de ne pas résister, que le besoin se crée peut-être malgré soi, quoi.
Oui, c'est quelque chose d'insidieux qui peut arriver, mais le fait de se remettre en question, donc d'oser régulièrement bouleverser les équilibres, permet d'éventuellement prévenir et voir ce genre de choses.
C'est ça.
Et donc, c'est quelque chose que nous avons pu connaître dans notre couple. Et donc, ce besoin, ce lien de dépendance est quelque chose, à la limite, que nous avons travaillé. Parce que ni l'un ni l'autre, nous n'avions envie de perpétuer ça. À terme, c'est pas satisfaisant. Parce que la personne dépendante, elle va finalement avoir une sorte de rancœur de se sentir dépendante de l'autre. Et la personne qui remplit ce besoin, il y a un moment où il n'a plus nécessairement envie de remplir ce besoin.
C'est ça.
Et donc, c'est pas quelque chose qui est souhaitable de maintenir à terme. Je dirais de façon ponctuelle, ça arrive forcément que un des deux conjoints puisse avoir des périodes plus difficiles où il a besoin de
C'est
l'autre.
ça.
Ça, c'est légitime. C'est normal que l'autre soit là à ce moment-là.
Moment d'entraide.
C'est vraiment on ne peut plus naturel et ça va de soi. Par contre, si ça devient quelque chose de très structurel à long terme, c'est pas bon. Donc il faut arriver à supprimer ce besoin, donc en aidant l'autre à atteindre l'autonomie.
Eh bien, cher Bob, je trouve ça assez puissant, ces dernières paroles. Et je voudrais vraiment te remercier pour ce bel échange. On fait un beau petit voyage tous les deux, il me semble. Hein.
Ok.
Merci à toi.
Merci aussi, hein, vraiment, vraiment du fond du cœur. Les musiques qui illustrent cette émission sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin. Toutes ces musiques sont disponibles sur le site de musique libre jamendo.com. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à deux pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus, le deuxième mercredi du mois à 21h30, et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Polyplaisir des Utopies, c'est aussi la joie d'émettre sur cette radio intelligente et curieuse qu'est Radio Campus. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des Utopies. Thank you.